Mesdames, Messieurs, l'équipe des Panoramas économiques vous retrouve pour la rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur Radio KPI. Mais avant tout, le sommaire. La DGI dresse le bilan 2013 et les projections 2014. Cette régie financière a mobilisé pour l'année dernière 92,7% des recettes sur les prévisions budgétaires lui assignées par le gouvernement. Cette déclaration du président national de la FEC par rapport à la stabilité du cadre macroéconomique de la RDC, il ne suffit pas d'avoir un taux de croissance positif, mais l'accent doit être mis sur la qualité de cette croissance qui doit être redistribuée. La Banque mondiale veut aider la SNEL à améliorer la qualité de ses services. Plus d'un milliard, 140 millions de dollars, c'est le montant qu'elle a débloqué pour cette fin. Paul Matendo et François Kadima vous présentent ce numéro de Panorama économique. Et comme invité ce samedi, nous recevons Jacques Tchilembe. Il est expert en logistique multimodale. Alors, monsieur Jacques Tchilembe, bienvenue dans Panorama économique.
Donc, comme vous dites, ma casquette principale est celle de logisticien multimodal.
Merci beaucoup. Alors, Paul Matendo, c'est parti pour ce samedi.
Oui, tout à fait, François.
Panorama économique, le dossier.
Voilà, ouvrons Panorama économique par la DGI qui dresse le bilan 2013 et les projections 2014, Paul Matendo.
Oui, tout à fait, François. La DGI a mobilisé 92,7% des recettes sur les prévisions budgétaires lui assignées en 2013. Information livrée ce mercredi lors de l'ouverture du séminaire des directeurs des impôts. Le directeur général de la DGI a ajouté que la taxe sur la valeur ajoutée TVA connaît une amélioration continuelle depuis sa mise en œuvre. Dieudonné Locadie.
Nous avons fait des efforts assez significatifs, notamment en matière des recettes hors TVA, parce que comme on l'a indiqué, on a quasiment atteint les assignations de 2013. Il n'y a pas eu de problème de ce point de vue. Mais les efforts doivent se poursuivre naturellement. En ce qui concerne la TVA, comme j'ai eu à l'indiquer, la TVA collectée, elle a évolué très bien. Quand on regarde le chiffre d'affaires qui a été soumis à la TVA depuis le démarrage de l'opération, on est sur une pente ascendante. Mais seulement, vous savez que ce qui est reversé au niveau de la DGI, c'est la TVA nette. C'est-à-dire, après avoir procédé aux déductions, notamment de la TVA payée au niveau des importations, et aussi le crédit TVA qui est résulté de l'année précédente. Nous allons renforcer, mieux former les agents en matière de contrôle et de suivi de la TVA, et nous pensons que les challenges peuvent être gagnés.
Voilà, c'était là le directeur général de la DGI, Dieudonné Locadie. Je rappelle que nous sommes dans Panorama économique et nous recevons Jacques Tchilembe. Il est expert en logistique multimodale. Alors, monsieur Jacques Tchilembe, vous avez suivi le premier élément avec nous, c'est la DGI. Le DG parle de recettes d'une amélioration continuelle de la TVA. Il le disait à l'occasion de bilans qu'il dressait pour l'année 2013 et les projections 2014.
Je pense aussi c'est que compte tenu de la croissance démographique de notre population et de l'amélioration de la production des industries extractives, donc par effet mécanique, les recettes de la DGI ne peuvent aller que en croissance. Donc, nous pouvons dire que la DGI a atteint cette performance de 100%. C'est très bien, mais en fait, cette croissance est en mettre aussi en rapport avec le volet informel de notre économie, parce que nous avons un grand pan de notre économie qui est informel. Donc nous avons encore une réserve de croissance importante au Congo. Donc voilà en gros ce que je pourrais dire. Donc il reste encore beaucoup de chemin à faire, puisque une grosse partie de l'économie du pays est informelle.
Vous parlez de l'économie informelle. La DGI, c'est parmi les régies qui mobilise plus de recettes. Et dans les formels, qu'est-ce qui peut être fait pour également mobiliser les recettes qui peuvent contribuer au budget de l'État, en dehors de la DGI et d'autres régies financières?
Je peux citer deux secteurs. Le ministre des télécommunications et nouvelles technologies de l'information a parlé de la fraude qui sévit dans le domaine des télécommunications. Vous savez que par an, il y a à peu près 120 millions d'appels entrants au Congo. Donc les gens qui sont à l'étranger, notamment la diaspora, appellent pour 120 millions d'appels entrants qui pourraient servir, qui pourraient élargir l'assiette fiscale du pays. Mais de ces 120 millions jusqu'à présent, c'est-à-dire 10 millions par mois, c'est de ces 120 millions jusqu'à présent, on avait constaté que 20 millions d'appels effectivement déclarés par les opérateurs. Et je crois que ça vous donne une idée. Je parle du ministère des Affaires foncières également, qui a un projet qui semble avoir, qui a un projet pour régulariser, pour formaliser le secteur des baux locatifs. Ici à Kinshasa, nous voyons tout le monde payer des garanties de 10 mois, 12 mois de loyer, mais aucune personne ne verse au trésor public sa quote-part et tout. Donc vous voyez que l'assiette fiscale ne peut pas uniquement être basée sur l'industrie extractive. C'est pour ça que je vous dis qu'une grosse partie de l'activité économique du pays est encore informelle. Mais nous venons de très loin et de grands progrès ont été faits.
Ok, merci Monsieur Jacques Chilembe. Nous allons prendre un autre sujet, mais c'est toujours à la DGI. Après plusieurs mois de rupture de stock, les plaques minéralogiques d'immatriculation sont à nouveau à Kinshasa. Ces plaques sont commercialisées à la division véhicules de la Direction générale des impôts, comme nous explique Paul Matendo, qui s'est rendu sur place à la division véhicules dans la commune de Limété. Il s'entretient ici avec Mireille Boukassa.
Alors les plaques d'immatriculation sont bel et bien là, comment faire pour s'en procurer?
C'est simple Mireille, la plaque revient à 170 dollars américains. Mais il faut vite préciser que ces prix, c'est seulement si les documents des dédouanements portent le nom du propriétaire du véhicule. Au cas contraire, les prix se calculent autrement. Il faut ajouter aussi qu'en plus des originaux des documents des dédouanements, il faut annexer au dossier la photocopie de vos pièces d'identité. Et au bout de quelques jours, vous obtenez votre plaque.
Mais est-ce que la demande des plaques est assez forte?
Bien sûr que oui, Mireille. Après plusieurs mois de carence, vous pouvez l'imaginer déjà, ce mercredi, j'ai assisté, il y a eu une forte bousculade à la division véhicules de la DGI. Beaucoup de propriétaires des véhicules venaient déposer leur dossier pour l'achat des plaques. Cette précipitation se justifierait certainement par crainte d'assister à une nouvelle rupture des stocks.
L'offre correspond-elle à la demande? Précisément, quelle quantité des plaques a reçu la DGI?
Eh bien, Mireille, sans nous indiquer les chiffres exacts, nos sources sur place à la DGI estiment qu'il y a une forte quantité de plaques sur le marché.
Voilà, vous avez suivi cet entretien. C'est par rapport à la rupture de plaques d'immatriculation. Vous êtes ici au pays et je pense que vous êtes au courant de cette situation aussi.
Oui, puisque venant de Belgique, qui est une des destinations principales de fourniture pour ce qui concerne la capitale ici Kinshasa en véhicule, donc par le port d'Anvers.
Oui.
Donc nous connaissons ces mouvements. Donc il y a un problème. Les automobilistes dans tous les pays sont considérés comme la vache à lait. Donc les services fiscaux, des impôts et tout ça, focalisent leur activité sur l'automobiliste parce que généralement l'automobiliste est un homme qui dispose d'un pouvoir d'achat qui lui permet de faire face à ces contraintes. Mais ici, le parc automobile à Kinshasa est estimé, semble-t-il, à 200 000. Et c'est un parc automobile usagé, donc avec un renouvellement constant. Il y a des réglementations qui rendent difficile maintenant l'importation des véhicules usagés au Congo pour des raisons de contrôle technique et ainsi de suite. Donc comme l'assiette sur laquelle sont répartis les frais et par rapport aux objectifs fixés par le gouvernement, si vous devez je trouve que 170 dollars c'est beaucoup par rapport à ce qui est payé dans d'autres pays. Mais comme le nombre de véhicules est relativement restreint ici au Congo, donc voilà, c'est comme ça qu'on arrive à cette situation. Mais malgré ce nombre restreint, vous m'apprenez sans que des chiffres n'aient été précisément donnés, donc vous ne savez déjà pas quel est le nombre de plaques qui ont été distribuées qu'à réceptionner la DGI, mais je pense que notre pays pourrait faire quand même un travail en amont, c'est-à-dire faire en sorte que les plaques soient produites ici au Congo. Ce n'est pas difficile de produire des plaques automobiles dans n'importe quelle serrurier en Belgique. Vous faites des plaques d'immatriculation, donc on pourrait les faire avec un petit atelier relativement simple à mettre en place.
Alors vous venez de l'extérieur. Ailleurs, le plaque d'immatriculation coûte combien par rapport à notre pays?
Beaucoup moins cher. C'est une donnée qu'il faut mettre en relation avec le pouvoir d'achat des individus. Ici, les gens qui achètent le véhicule, c'est généralement leur seule richesse. C'est à peu près le seul capital qu'ils ont. Ils ne peuvent pas supporter la même chose qu'un automobiliste européen qui a accès au crédit, qui a accès à toutes les facilités et qu'on sort. Donc voilà, dit simplement, je tiens à garder un langage compréhensible de tous.
Voilà, Panorama économique va se poursuivre. Je rappelle que notre invité s'appelle Jacques Chilembe. Il est expert en logistique multimodale. Nous allons poursuivre Paul Matendo avec la Fédération des entreprises du Congo FEC, qui apprécie les performances du gouvernement en matière de stabilité du cadre macroéconomique et la croissance économique du pays en 2013. Mais les Congolais restent pauvres et attendent toujours les retombées de cette croissance dans leur vie quotidienne. Déclaration du président de la FEC lors de la cérémonie de présentation des vœux aux opérateurs économiques à Kinshasa. Paul Matendo nous en dit plus.
À en croire Albert Yuma, il est bon pour l'édification de tous de faire une analyse plus approfondie pour savoir pourquoi, malgré toutes les données statistiques positives du pays, la situation économique et sociale reste difficile. Les opérateurs économiques et les ménages se plaignent toujours. Le patronat congolais pense qu'il ne suffit pas d'avoir un taux de croissance positif, mais l'accent doit être mis sur la qualité de cette croissance qui doit être redistribuée. Parmi les défis à relever également, c'est offrir davantage des possibilités de développement au plus grand nombre de Congolais en boostant la production manufacturée et agro-industrielle. La FEC indique qu'il est important pour les pays de se tourner vers la facilitation de la production intérieure et la création de vraies valeurs ajoutées locales. Et pour que la RDC soit un pays émergent à l'horizon 2030, il y a nécessité d'initier des vraies réformes économiques structurelles, une refonte totale de la fiscalité et des procédures de mobilisation de recettes.
Monsieur Jacques Chilembe, nous sommes avec vous. Vous avez suivi ce que dit la Fédération des entreprises du Congo. Le pays enregistre des performances en matière de stabilité du cadre macroéconomique. Mais une inquiétude pour la FEC, les Congolais restent pauvres, attendent toujours les retombées de cette croissance sur le vécu quotidien. Un commentaire.
Mon commentaire, vous m'avez demandé qu'il reste économique, bien que je sois expert en logistique multimodale. Nous avons tous suivi entre la FEC et le gouvernement, si j'ose dire. Moi, je parlerai de la théorie du verre à moitié plein et du verre à moitié vide. La FEC est dans son rôle de trouver que le gouvernement ne fait pas suffisamment, et le gouvernement est dans son rôle de défendre son bilan. Alors, si vous voulez maintenant que je donne mon sentiment je vous ai dit en préliminaire que nous avons une croissance démographique importante au Congo et que les activités minières, donc les sociétés qui sont venues investir dans le sud du pays, au Katanga notamment, les gros investissements commencent à produire. Le gouverneur du Katanga a annoncé un pic de production de 900 000 tonnes, ce qui est à peu près le double de de cuivre, ce qui est à peu près le double de ce qui se faisait jadis à la grande époque de la Gécamine. Donc voilà. Donc cet environnement-là macroéconomique fait que les chiffres dont parle le gouvernement ne peuvent être que bons par rapport à ceux qui existaient précédemment. S'il y a progrès sur le plan arithmétique, oui, il y a progrès sur le plan arithmétique. Est-ce qu'il y a progrès sur le plan social, qui est la question qui est posée? Cette question-là est une question que je pourrais appeler économique et pas politique. C'est-à-dire que le pays est parti d'un certain niveau, il doit arriver à un certain niveau pour que la population commence à le ressentir. Est-ce qu'elle le ressent Déjà, oui, elle le ressent à certains endroits, mais est-ce que c'est généralisé à l'ensemble du territoire national? Je dis, il faut mettre ça en relation avec les événements qu'il y avait à l'est du pays. Le pays a connu une situation de guerre dans laquelle elle sort, le pays sort progressivement, donc les moyens de la politique gouvernementale ont pu servir à la défense nationale. Mais maintenant, quand le président de la FEC dit que la dette intérieure du Congo, plus d'un milliard et demi de dollars, n'a pas été payée, c'est sans doute vrai, et je pense que c'est même vrai, mais il est dans son rôle, il est le président du syndicat des patrons, oui, donc il doit défendre ses, oui. Il doit défendre ses adhérents. Il n'est pas là pour défendre la politique du gouvernement, sinon le patronat ne comprendrait pas comment la FEC s'alignerait sur des positions gouvernementales. Et puis je dis, le gouvernement a un parlement, a une majorité au parlement, donc il peut s'expliquer devant le parlement. Il n'a pas à polémiquer nécessairement avec avec les partenaires sociaux, comme on dit. Donc la FEC est un syndicat comme les syndicats des travailleurs sont des syndicats et qui réclament, qui estiment que le salaire n'est pas suffisamment élevé, donc qui ont aussi des griefs vis-à-vis du patronat congolais quant à leur pouvoir d'achat.
Ok, nous allons poursuivre Panorama économique ce samedi. Plus d'un milliard 140 millions de dollars, c'est le montant que la Banque mondiale a débloqué pour aider la Société nationale d'électricité à améliorer la qualité de son service à Kinshasa, Paul Matendo.
Tout à fait, François. Lors d'une visite d'inspection des installations en cours de réhabilitation, grâce au financement de la Banque mondiale, le directeur des opérations de cette institution de Bretton Woods en RDC a indiqué que les fonds sont destinés à la réhabilitation des turbines à Inga, au renforcement des lignes de transport d'électricité, ainsi qu'au renouvellement du réseau de distribution à Kinshasa. Pour Estache Wairo, la mise en œuvre de ce projet d'électricité pour tous va suffisamment contribuer à la lutte contre la pauvreté en RDC. Estache Wairo s'entretient ici avec Michel Kifindangoy.
Bon, disons que ce que nous essayons de faire d'abord, c'est accroître la capacité de production d'électricité. Ça, c'est vraiment un objectif important. Donc, réhabilitation des turbines à Inga 1 et à Inga 2. Pour passer d'une situation de 800 MW à 1300 MW pour qu'il y ait suffisamment d'électricité dans le système. Ensuite, il faut transporter cette électricité de Inga pour l'amener en ville. Donc, la ligne de transport à haute tension de 220 kV. Quand cette électricité est arrivée en ville, il faut la distribuer. Donc, pour la distribuer, il faut donc s'assurer que les systèmes en ville sont réhabilités, que les sous-stations sont réhabilitées, que les stations sont réhabilitées et qu'on fasse des branchements pour les populations. Donc nous avons un programme qui va permettre à 280 000 personnes d'avoir accès à l'électricité pour la première fois.
Vous avez débloqué combien d'argent pour réaliser ce programme?
Bon, c'est un programme de 1 milliard 140 millions de dollars, donc qui couvre la ville de Kinshasa, les réhabilitations des turbines à Inga, le transport d'électricité dans le Katanga jusqu'à Kolwezi et à Kasumbalesa. Et c'est l'ensemble de ce programme-là qui fait 1 milliard 140 millions. Et qui va permettre de changer, un temps soit peu, les conditions de fourniture d'électricité dans notre pays.
Ce n'est pas la première fois que la Banque mondiale soutienne la RDC dans différents projets, mais quels sont les mécanismes avez-vous mis sur pied pour arriver à canaliser vraiment cet argent dans l'objectif bien fixé?
Donc, c'est un projet important, il faut le dire. On était dans le quartier Congo, dans la zone entre Macampagne et puis Kitambo. Et les personnes que nous avons rencontrées nous ont dit que ça faisait 45 ans qu'ils n'avaient pas eu d'électricité. Ça a été confirmé par nos collègues de la SNEL. Et ce projet permet à ces personnes d'avoir de l'électricité. Elles sont vraiment heureuses. Notre objectif, c'est de faire en sorte que les populations bénéficient des conditions de la prospérité et de la croissance économique.
Monsieur Jacques, vous avez suivi. La SNEL a des difficultés pour desservir toute la ville de Kinshasa. Et la Banque mondiale vient à la rescousse. Comment jugez-vous l'apport de la Banque mondiale?
Je vais faire un commentaire pour avoir suivi la visite du président Zuma à Kinshasa dans le cadre du projet Inga 3. Donc le problème de la distribution de de Kinshasa en électricité n'est pas un problème de production, c'est un problème de distribution. Donc il y a un problème de distribution. Il y a assez d'électricité produite à Inga pour couvrir l'ensemble de la ville de Kinshasa. Mais les infrastructures, selon ce qui m'a été expliqué par la direction de SNEL, les infrastructures, transformateurs et tout le reste au niveau de Kinshasa ne permettent pas, et les lignes qui partent de Inga sur Kinshasa sont saturées. Donc il y a une ligne en construction, je pense, qui dans les 2 ou 3 mois sera opérationnelle, semble-t-il. Et donc la Banque mondiale donne 1 milliard 100 millions, ça ne peut être qu'un bon signal, puisque vous savez que nous avons été à un moment où nous sommes un peu en délicatesse avec les institutions de Bretton Woods pour des questions minières concernant la transparence dans le domaine de l'extraction minière, et je pense que ce problème est en cours de solution.
Tout à fait.
Mais le projet sud-africain me paraît tout aussi important, si pas plus important, puisqu'avec Inga 3, le problème va être réglé. Puisque la difficulté actuellement, c'est que l'électricité sociale, puisque vous savez qu'il n'y a que 9% de la population congolaise actuellement qui a accès à l'électricité, mais le coût de l'électricité au Congo, comparé à celui des autres pays africains, est ridiculement bas. Et la population congolaise n'est pas en mesure de rendre la SNEL performante. Il nous faut exporter une partie de cette électricité. Et le partenariat qui a été trouvé avec l'Afrique du Sud pourrait être un partenariat gagnant-gagnant, parce qu'il permet à l'Afrique du Sud de combler son déficit énergétique, et il permet à la République démocratique du Congo de compenser la faiblesse du pouvoir d'achat de sa population par rapport à l'électricité. Donc l'Afrique du Sud s'est engagée à acheter 2500 mégawatts de la future tranche de Inga 3, et ces 2500 mégawatts rendent le Congo à nouveau fréquentable sur les milieux financiers afin de réaliser ce projet vieux de 30 ans.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
L'actualité économique en bref. À Lubumbashi, l'association de commissionnaires agréés en douane, ACAD, dénonce les tracasseries de la part de la brigade antifraude du gouvernorat de la province du Katanga. D'après l'ACAD, la brigade antifraude du gouvernorat arrête abusivement de grands camions à l'importation en provenance de l'Afrique australe et exige les amendes. Et pourtant, souligne donc-t-elle, ces camions sont libérés après un contrôle au préalable par la douane au niveau du guichet unique à Kasumbalesa.
À Walikale, au nord Kivu, les exploitants artisanaux regroupés en coopérative minière à Bizié accusent la société minière Mining Processing Congo de pouvoir bloquer la signature de l'avenant prévu entre le 9 et le 16 janvier dernier. Ils l'ont dit lundi à Radio Okapi. Selon ces exploitants artisanaux, un protocole d'accord avait été signé en 2010 entre les deux parties pour donner la chance au processus de qualification, validation et certification de ce site. Les entreprises n'ayant pas honoré les accords concernant les conditions salariales des conducteurs de poids lourds sont interdits d'accès aux ports de Matadi, Sokopé et Boma. C'est une décision du ministre provincial en charge des transports du Bas-Congo. Elle a été prise à l'issue d'une réunion avec le maire de la ville, les représentants de la FEC, la SCTP et la force routière du Congo, FARC. Ces entreprises sont également interdites de transporter les marchandises des tiers pour toutes les destinations.
À qui ça va? parmi les exploitants artisanaux de bois ont majoré de 80% la tarification de la vente des bois sur toute l'étendue de la ville de Kisangani. Une majoration qui fait suite à l'augmentation de la taxe d'agrément d'exploitation fixée par le gouvernement provincial, ainsi que la hausse sur le marché de prix de pièces de rechange de machines utilisées. La dite taxe d'agrément est passée de 166$ à $500 par an. En réaction, le ministre de l'économie déclare ne pas reconnaître cette nouvelle tarification fixée de façon unilatérale. Alphonse Oukeshi recommande à la population de ne pas se soumettre à cette nouvelle tarification. Nous sommes dans le panorama économique, Monsieur Jacques Chilembe, un commentaire à placer sur l'une ou l'autre actualité passée tout à l'heure.
Écoutez, je vois que l'ensemble des commentaires économiques que vous de l'actualité économique tourne autour de la logistique. C'est en permanence la logistique dont il s'agit. Je rappelle que Stanley a dit à l'époque que sans chemin de fer, le Congo ne valait pas un penny. En fait, la notion de logistique n'était pas connue à son époque, puisqu'il aurait dit sans doute, sans la logistique, le Congo ne vaudrait pas un penny. Maintenant, toutes ces nouvelles que vous donnez nous montrent que notre pays est en pleine effervescence économique et donc tous les acteurs de ce secteur, aussi bien les autorités que les opérateurs économiques, sont en conflit apparent, mais je crois que les choses se régulariseront au fur et à mesure que notre économie se formalisera et que les gens auront pris l'habitude de fonctionner dans un secteur formel. Donc je redirai ce que j'ai dit au départ, nous devons aller de plus en plus vers la formalisation de notre économie, et le projet que le gouvernement tente de mettre en place de bancarisation va, à mon sens, dans le bon sens.
Vous avez dit que vous êtes expert en logistique multimodale. C'est quoi exactement?
Mais vous savez qu'il y a plusieurs modes de transport. Vous avez le maritime, vous avez le fluvial, vous avez le ferroviaire, vous avez le terrestre, le routier, et vous avez l'aérien. Et normalement, dans les pays émergents ou dans les pays développés, la logistique se conçoit sous forme de hub et de plateforme multimodale. C'est-à-dire un endroit où il doit y avoir une gare de chemin de fer, il doit y avoir un port, il doit y avoir un terminal autoroutier de transport routier. Je vous signale qu'au Katanga, il y a énormément de transports. L'essentiel du commerce se passe par voie terrestre, et donc il y a le chemin de fer. Je pense que notre problème est la logistique. Dès que nous aurons progressivement réglé ce problème, nous pourrons y arriver. Mais le Congo a des atouts, puisqu'il a 48 aérodromes hérités de l'époque coloniale. Le Congo a un réseau fluvial absolument gigantesque. Le Congo a une ébauche de chemin de fer qui ne demande qu'à être réhabilité. Et donc je crois que par rapport aux autres pays de la sous-région, nous sommes vraiment le noyau qui manque pour relier par exemple l'Atlantique à l'océan Indien, par exemple.
Voilà, nous allons nous quitter là, Monsieur Jacques Chilembe. Merci d'être venu dans Panorama économique pour ce samedi, une rétrospective de l'actualité économique de la semaine. La présentation était signée Paul Matendo et François Kadima. La technique tenue par Héritier Sidiakala. Cette émission a été coordonnée par Nicole Ngaka. Nous allons vous retrouver le week-end prochain à la même heure sur la même chaîne, mais déjà lundi. Prenez rendez-vous avec nous dans Écho d'économie. Paul, c'est à quelle heure?
Tout à fait, à partir de 18h15, et nous en profitons pour dire merci à M. Jacques Chilembe.
Je vous remercie de m'avoir invité. J'espère que dans les jours à venir, nous pourrons deviser de ce qui est réellement ma spécialité, c'est-à-dire la logistique multimodale et particulièrement aérienne.
Tout à fait.
Notamment pour ce qui concerne la nouvelle compagnie aérienne que le gouvernement projette de mettre en place.
Tout à fait, voilà. Merci beaucoup et au revoir.